Il est 9h40, l'instant M, c'est parti, profitez.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Trois valises avec zip en cuir marron, 5 millions d'euros en coupure neuve. Dans un entretien filmé et diffusé sur le site d'info Mediapart, Ziad Takieddine balance les livraisons d'argent en provenance de Libye et à destination de Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007. Révélation choc dans une enquête que Le Monde qualifiait récemment d'impossible. Quand, comment et pourquoi cette interview a-t-elle eu lieu? Question à Nicolas Vescovacci, bonjour.
Bonjour.
Journaliste d'investigation, je précise que depuis, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy démentent et entendent vous poursuivre. On va en parler.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Alors l'actualité des médias, c'est toujours, encore et toujours, iTélé. La grève a été revotée hier, alors que les représentants de la rédaction et des salariés proposaient en Assemblée Générale un texte de sortie de crise obtenu après de longues heures de négociations avec la direction. Cyril Lacarrière, bonjour Cyril.
Bonjour Sonia.
Voilà, journaliste au quotidien L'Opinion. Avec vous, on s'est demandé qui a quoi à perdre dans cette grève interminable et surtout, qu'est-ce que ça coûte à qui? Qui perd?
Qui perd? Ouais. Salariés grévistes, forcément.
Bah ouais.
Encore 78 hier à voter le mouvement et ça fait presque 5 semaines sans toucher de salaire.
C'est dur, hein? 5 semaines sans toucher de salaire, c'est très dur. Voilà. Alors, qui dit en même temps pas de salaire à verser, dit moins de dépenses pour le groupe.
Forcément. Ouais. La masse salariale d'une chaîne d'info représente 60% de son budget. De budget, on a un peu calculé et on arriverait à une économie d'1 million d'euros, mm-hmm, pour Vivendi. Mais à cela, il faut retrancher les recettes publicitaires perdues. Le magazine Challenge évoquait hier un manque à gagner d'1,5 million sur le mois. Sauf qu'il y a encore de la pub à l'antenne sur iTélé en ce moment. Peu, mais il y en a. Une poignée d'annonceurs paye encore donc pour passer sur une chaîne que plus personne ou presque ne regarde. iTélé en grève plafonne à 0,2% de part d'audience.
Alors iTélé appartient à Canal+, qui appartient à Vivendi. Que Vivendi perde ou gagne 1 million d'euros le mois dernier, est-ce que ça compte? Est-ce que ça pèse?
Prenons le bilan des 9 premiers mois de Vivendi. Mm-hmm. Un résultat net de 625 millions d'euros en hausse de 25%. Un flux net de trésorerie de 555 millions, c'est plus 46% par rapport à l'an dernier. Et une trésorerie de 2,5 milliards. Vous m'avez compris, qu'on parle des 40 millions de budget d'iTélé ou de 20 millions de pertes annuelles, c'est peanuts pour Vivendi.
Voilà, peanuts, c'est des cacahuètes.
Oui, c'est des cacahuètes. Et si on regarde plus spécifiquement les comptes de Canal+, on constate que l'heure est loin d'être à l'urgence. Oui, les abonnés quittent le navire. À qui la faute, d'ailleurs? Oui, le modèle économique doit être réinventé. Mais Canal+ continue de gagner de l'argent. 427 millions d'euros depuis janvier. Les recettes publicitaires des chaînes gratuites de Canal+, c'est-à-dire C8, C-Star et donc iTélé, s'élèvent à 155 millions d'euros en 9 mois. C'est plus 9%. Par rapport à l'an dernier.
Voilà, et plus 9%, c'est aussi le bond de l'action Vivendi en bourse jeudi dernier, après la publication des résultats. Revenons à iTélé, qui perd donc 20 millions d'euros par an, selon ce qu'affiche le groupe. Est-ce que c'est une fatalité, Cyril?
Bah, une chaîne d'info, ça perd de l'argent. En France, deux des trois chaînes privées en perdent. LCI perdra aussi plus de 20 millions cette année, mais c'est le choix de sa maison mère, TF1, investir. En recrutant par exemple des pointures comme Yves Calvi ou en nommant Thierry Tuilier, mmh, à la direction. Pourtant, les moyens de TF1 sont loin, très loin même de ceux de Canal+ et de Vivendi. Jugez plutôt, chiffre d'affaires de TF1 en 2015, 2 milliards. Chiffre d'affaires de Canal+, 5,5 milliards. Et si on parle de Vivendi, attention, il s'agit de plus de 10 milliards. iTélé, c'est une poussière au sein d'un groupe protéiforme, valorisé en bourse à plus de 25 milliards d'euros.
Et BFM TV, hein, qui est archi-leader aujourd'hui en audience en France.
Eh bien BFM, c'est l'exception. BFM, parti de rien, sans l'appui d'un grand groupe, gagne désormais de l'argent, 15 millions d'euros l'an dernier.
15 millions d'euros, ouais, c'est ça. Voilà, et qui aujourd'hui est arrimé à Altice, le groupe de Patrick Drahi. Bref, si Bolloré garde iTélé, il lui faut accepter de perdre de l'argent un temps, hein, en attendant de le redresser. Est-ce que la marque iTélé a de la valeur, Cyril? Est-ce qu'elle a perdu de sa valeur, hein, à cause de cette grève?
Bolloré s'en fiche de la marque iTélé. D'ailleurs, il avait déjà prévu de la rebaptiser. iTélé, ça va disparaître et ça va bientôt s'appeler CNews. Mm-hmm. Avec quoi dedans? Ça, pour le moment, on n'en sait vraiment rien. Ce qui a de la valeur, en revanche, c'est la fréquence TNT, surtout sur le canal 16. Mais Vincent Bolloré va-t-il la garder? Ses proches assure que oui, mais ETELE n'offre que de faibles possibilités de synergie avec les autres filiales. Et on l'a compris, c'est un nid à problème. Alors, contre un bon payeur qui, par exemple, verserait 100 millions d'euros, oui, faisons le pari que Vivendi n'hésiterait pas longtemps.
100 millions d'euros. Nicolas Vescovici.
Ouais, alors, j'ai travaillé à ETELE pendant 6 mois. Voilà. Je les connais tous bien et je les salue.
Voilà, et vous avez travaillé également pour le compte du groupe Canal. Hein. C'est un hasard absolu de l'actualité qui vous amène à l'instant même aujourd'hui, mais on s'en souvient parce que ça avait été largement commenté. Votre documentaire consacré au crédit mutuel et à ses circuits d'évasion fiscale avait été déprogrammé de l'antenne de Canal+, finalement diffusé sur France 3, c'était il y a un an et demi. Surprise, en ce qui me concerne, il y a 3 semaines, vous décidez de porter plainte pour, je cite, entrave à la liberté d'expression, abus de biens sociaux et abus de pouvoir. Pourquoi ce délai entre les deux et pourquoi cette plainte finalement?
Parce qu'il était hors de question pour nous d'engager un bras de fer avec Vincent Bolloré. On n'avait pas envie de se payer Monsieur Bolloré en frontal, on n'a pas de raison de le faire, on ne déteste pas Monsieur Bolloré. Et donc on a accumulé au cours de ces mois des éléments probants, d'enquête qui montre, qui prouve que Vincent Bolloré a bien censuré ce film en direct. On a essayé de chercher des failles juridiques qui nous permettaient de faire rebondir cette histoire auprès de la justice. On n'a pas trouvé au départ. C'était compliqué, c'est ténu. Il faut savoir qu'en France, la censure n'est pas définie du point de vue juridique. Mmh. Si vous censurez une émission, un papier, vous ne risquez rien aujourd'hui. Donc on s'est emparé de cette histoire du point de vue juridique et on s'est dit, si on va vers une plainte, on veut faire rebondir ce dossier, on veut essayer de faire avancer le droit et notamment la définition de la censure. Et on veut faire en sorte que ce dossier ne soit pas enterré, qu'on en parle pendant la campagne présidentielle. Et donc on s'est rapproché d'un avocat qui a travaillé avec ses équipes pour essayer de comprendre comment on pouvait avoir une base juridique suffisamment importante pour porter plainte. On a trouvé ces bases juridiques, on a trouvé ces failles sur l'abus de pouvoir notamment, et la plainte est aujourd'hui au parquet, on attend une décision.
Bien, alors maintenant, on va passer à ce qui pourrait valoir à vous-même et à Mediapart d'autres plaintes, à savoir les révélations de Ziad Takedid, publiées sur le site d'info Mediapart.
L'instant M, avec Sonia De Villers.
Pourquoi et comment se fait-il qu'un type comme celui-là puisse prétendre encore une fois à la présidence de la République ? Le peuple français doit réagir. Ça va exploser. Je vous dis, ça va exploser.
Comment vous qualifiez maintenant, avec le recul également, ce système, finalement, auquel vous avez participé ?
Je le qualifie de mafieux.
Alors évidemment, a-t-on des leçons de civisme à recevoir de Ziad Takedine, personnage pour le moins douteux ? C'est évidemment une question qu'on peut se poser. Mais la première, Nicolas Vescovici, c'est comment vous êtes arrivé à cette affaire ? Est-ce que le supposé financement libyen de la campagne de 2007 était votre objet d'enquête ?
Absolument pas. Absolument pas. La première fois que j'ai rencontré Ziad Takedine, que j'avais déjà rencontré en 2011 notamment, c'est le exactement...
Alors, vous avez précédemment travaillé sur le dossier Karachi.
Voilà, j'ai travaillé sur le dossier Karachi, comme beaucoup de mes confrères, et beaucoup de mes confrères ont rencontré Ziad Takedine. Mm-hmm. Je l'avais rencontré en 2011 notamment. Cette fois-ci, je vais le voir sur un autre dossier qui n'est pas le financement libyen. Et...
qui concerne néanmoins les relations entre la France et le
Absolument.
Moyen-Orient.
Je vous dévoilerai pas le sujet, ça n'a aucune importance. Je vais le voir pour essayer d'avoir une confirmation d'une autre information que je suis sur laquelle je travaille. Et nous sommes exactement le 18 octobre. Je passe 4 heures avec lui et en plein milieu de la conversation, sans que je ne lui pose aucune question, Ziad Takedine me dit « Oui, j'ai livré 3 valises avec 5 millions d'euros en tout » et à Monsieur Claude Guéant et à Monsieur Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Vous pensez bien que je suis surpris, même si je connais le personnage. Qu'est-ce que je fais après 4 heures d'entretien chez Monsieur Takedine, dans son magnifique appartement parisien?
Est-ce que c'est là où vous avez réalisé l'entretien filmé le 12 novembre?
Absolument, c'est là où...
Un lieu étonnant, hein, fait de marbre, de marqueterie, en même temps
absolument.
Complètement vide.
Absolument, c'est lui qui l'a réalisé. D'ailleurs, c'est un appartement qui appartenait à l'ancien président ivoirien Oufouet Boigny, qu'il a récupéré pour une bouchée de pain, enfin 17 millions de francs, et il a investi 20 millions de travaux, ce qui donne ce marbre, ce parquet magnifique, ces cheminées, etc. Enfin, peu importe. Pour vérifier ces informations... D'abord, je fais mon boulot, c'est-à-dire que je vérifie les dates, j'essaye de trouver des concordances dans ce qu'il dit, j'essaye de trouver des témoignages concordants, et je vais le revoir. Mm-hmm. Je vais le revoir le 8 novembre. Je vais repasser 2 heures avec lui pour confirmer mot à mot ce qu'il dit. Entre-temps, la veille, Mediapart avait publié un témoignage essentiel, celui de Abdallah Sanoussi, le chef des renseignements libyens, qui affirme devant la Cour pénale internationale le 20 septembre 2012 qu'il a supervisé l'acheminement de 5 millions d'euros, le même chiffre, entre 2006 et 2007, les mêmes dates, et que le nommé Takieddine est celui qui est l'intermédiaire qui a remis l'argent à Claude Guéant au ministère de l'Intérieur. Et il ajoute « Sarkozy a bien touché l'argent ».
Est-ce que Zia Takieddine avait moyen de savoir que Mediapart était sur le point de publier le témoignage de Sanoussi ?
Absolument pas. Le témoignage d'Abdallah Sanoussi vient à peine de rentrer dans le dossier judiciaire et M. Takieddine n'a pas accès au dossier judiciaire. Et quand je reviens la deuxième fois le voir, je refais avec lui l'interview. Je lui refais préciser exactement tous les faits, les remises de valises, où il la pose, comment il fait, est-ce qu'il regarde, est-ce que ses interlocuteurs regardent dans la valise. Il me redit la même chose. À la fin de cet entretien...
On l'écoute décrire ce qu'il y a par exemple dans la première valise.
Il n'y a rien d'autre que de l'argent. Il y a à peu près, je pense, la première, c'était 1,5 million.
Ça se constitue de billets de 100
De billets de 500 et quelques-unes de 200.
En liasse de billets, ce sont des billets neufs en euros.
Totalement neufs.
Vous avez ouvert la valise, vous avez regardé ce qu'il y avait à l'intérieur ?
Oui, mais je n'ai pas compté. Hein. J'ai ouvert, j'ai vu. Je me suis fait un plan dans la tête, qu'est-ce que j'allais mettre dessus pour cacher s'ils avaient de la place. Et voilà.
Voilà, les mots de Zia Takieddine accessibles en ce moment sur le site de Mediapart. Donc, comment croiser ces informations ? Comment les rendre certaines, crédibles et donc diffusables ?
Alors, il dit qu'il n'a pas gardé de preuves. Je lui ai demandé, évidemment, avez-vous des preuves, des photos, des petites notes ? Il notait tout. Il faisait des notes pour Claude Guéant régulièrement sur la Libye. Il a été l'architecte du rapprochement entre la France et la Libye entre 2005 et 2010. Il notait tout, il faisait des notes pour Claude Guéant. Il dit ne pas avoir gardé de traces de ces livraisons d'argent. Pourquoi ? Parce que selon lui, c'était de l'argent entre les services, comme il dit, entre les services libyens et les services français. Maintenant, le témoignage dont je vous ai parlé tout à l'heure recoupe mot pour mot celui de Ziad Takieddine. Et Ziad Takieddine ne pouvait pas avoir accès à ce témoignage. C'est impossible. Et d'ailleurs, dans notre deuxième entretien, j'attends la fin de notre entretien pour lui révéler ce témoignage. Et il est lui-même surpris, en fait, que ce Sanoussi, ce chef des renseignements libyens, ait pu s'exprimer déjà en 2012. Moi, je me pose une question. Comment se fait-il que ce témoignage qui a été réalisé le 20 septembre 2012 se retrouve dans le dossier judiciaire en 2016, 4 ans après ?
4 ans, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 ans ?
Absolument.
Parce que c'était
devant
la Cour pénale internationale.
Qu'a fait ce témoignage ? Pourquoi s'est-il baladé pendant 4 ans dans les limbes ?
Et je précise que Sanoussi parle du montant, parle de Ziad Takieddine comme intermédiaire.
Parle de Guéant
comme récipiendaire et confirme à la fin que Nicolas Sarkozy a bien réceptionné ces sommes.
Donc tout y est. Vous avez pour la première fois un témoignage concordant. Vous avez d'abord quelqu'un qui parle face caméra et qui s'incrimine. Ziad Takieddine s'incrimine, n'est pas rien.
Il ne s'incrimine pas tout seul, il incrimine aussi Claude Guéant et Nicolas Sarkozy à quelques jours des primaires de la droite. Alors, d'abord, il vous dit, Ziad Takieddine, avoir livré l'ensemble de ses mémoires à la justice. C'est-à-dire que ce qu'on comprend dans l'entretien filmé, c'est qu'il n'y a rien qu'il ne vous dise qui ne soit aujourd'hui entre les mains des juges.
Alors, c'est pas tout à fait exact.
C'est-à-dire
il a remis ses mémoires à la justice concernant l'affaire Karachi.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il se sent libre de parole parce que pour lui, aujourd'hui, son dossier judiciaire Karachi est clos. Il attend une décision de la Cour d'appel de Lyon sur son dossier Karachi. Et il se trouve que moi, je tombe dans un moment capital pour lui, mais complètement par hasard. C'est pour ça que quand j'entends certains parler de boule puante, de manipulation, je souris parce que c'est un hasard pur que je sois rentré chez lui le 18 octobre. Il n'y a aucune manipulation.
Alors, c'est un hasard pur, mais lui peut y voir l'opportunité, lui peut y voir l'occasion de balancer la boule puante à Nicolas Sarkozy.
Alors,
comment être sûr, quand on est dans votre position, Nicolas Pescovacci, qu'on n'est pas instrumentalisé dans ces cas-là ?
Figurez-vous qu'on y réfléchit. On essaye de comprendre. Et c'est pour ça que je vais le voir deux fois avant de planter ma caméra dans son appartement et de l'interroger. C'est pour ça qu'on fait des recoupements. On fait des recoupements sur les voyages. On essaie de trouver des documents complémentaires. Mais c'est vrai qu'on a ici un témoignage qui, moi, me semble crédible, recoupé. C'est rare dans ces histoires de mallettes. Quand on transporte une mallette d'argent liquide, on a envie d'être discret, on n'a pas envie d'avoir de traces écrites. C'est le propre même de ce genre de livraison de cash.
Il y a un petit chapitre sur les valises, justement, assez succulent.
La deuxième fois, l'argent, vous l'avez pris de M. Sanoussi, vous l'avez donné en main propre.
Même valise,
C'était le même type de valise ?
La même. Et moi, d'ailleurs, j'ai dit, est-ce que vous avez des valises destinées à ce genre ? Voilà. Parce que c'était la même.
Est-ce qu'il a ouvert la valise cette fois-ci ?
Non, il n'ouvrait jamais la valise. Pas devant moi, en tout cas.
Le troisième voyage se passe de la même manière. Vous récupérez l'argent chez M. Sanoussi, toujours dans une valise ?
Toujours, toujours, toujours.
Vous faites toujours le même voyage ?
Attendez, je ne ramène pas la valise vide avec moi pour qu'elle soit remplie. Ils ont déjà des stocks.
Est-ce que la diffusion de ce témoignage, Nicolas Vescovici, a été dealée avec Ziad Takenin, en tout cas en termes de timing ? Est-ce que Ziad Takenin s'est manifesté auprès de vous pour que ce soit diffusé vite fait, bien fait ?
Absolument pas. C'est moi, c'est ma démarche journalistique d'aller voir un personnage que beaucoup de gens sur la place de Paris connaissent pour essayer de confirmer une information. On n'a jamais rien dealé avec Ziad Takenin. D'ailleurs, je vais le voir le 18 octobre. J'attends deux semaines avant de le revoir. J'essaie de confirmer. Et quand, grâce à Mediapart, grâce au témoignage de Mediapart publié le 7 novembre, je me rends compte qu'il y a une concordance sur les dates, les montants, les lieux, les hommes, je me dis, on a quelque chose entre
c'est
les mains.
C'est vous qui proposez à Mediapart ?
Absolument, c'est moi qui vais aller voir.
Votre vidéo ?
Non. C'est moi qui vais voir Mediapart et qui leur dit, voilà, j'ai un témoignage, vous avez un autre témoignage, travaillons ensemble. Comment faire pour à la fois faire un papier, c'est-à-dire écrire cette histoire, et en même temps faire un témoignage vidéo, car il me dit être prêt à raconter ça devant une caméra, ce qui est vraiment assez
pourquoi
rare.
Ne pas en avoir fait un objet de télé, comme vous le faites d'habitude, avec du reportage, du grand reportage, du
mais
documentaire ?
Mais parce que là, il fallait sortir cette info rapidement. Il n'y a aucun agenda politique derrière. Je rassure certains députés, les Républicains, qui parlent de boule puante, il n'y a pas d'agenda politique. C'est simplement le travail journalistique recoupé, diffusé. Et on a mis l'agence Première Ligne dans la boucle, parce qu'il fallait enregistrer ce témoignage et que je suis
avec des moyens
conséquents, je suis un simple pigiste
vidéo. Évidemment, vous procédez par questionnement très précis, très concret, où, quand, comment vous le faites décrire les lieux, les
absolument.
Gestes, les mots échangés. Il y a quand même quelque chose qu'on retient là-dessus aussi, c'est que Claude Guéant avait donc un numéro de téléphone sur lequel il répondait directement et il lui a promis à Ziad Takenin de ne pas en changer jusqu'après les élections présidentielles.
Alors ça, c'est un petit détail, ça veut dire qu'il y avait une confiance entre Ziad Takenin et Claude Guéant. Et ça, monsieur Claude Guéant ne peut pas le nier parce qu'il a rencontré des dizaines de fois Ziad Takenin pour préparer les voyages en Libye, pour préparer les contrats que l'État français attendait en Libye. Ziad Takenin a été l'émissaire officieux du ministère de l'Intérieur pendant 5 ans. 2005
voilà.
à 2010.
Ministère de l'Intérieur qu'il a protégé dans ses premiers témoignages
absolument.
Et que maintenant il livre. Merci Nicolas Vescovici.
Merci à
voir sur le site d'Info Mediapart. C'est la fin de l'instant M. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sana Devila.
Grand bien vous fasse ce matin.
Ce matin, on essaie de dresser un portrait sans cliché de la génération 3.0, cette génération qui a vu le jour dans les années 2000 avec Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, les consoles de jeux, les smartphones. Posez-nous toutes vos questions au 0145 247 000.
Essayez de comprendre vos petits-enfants. Ça nous aidera tous.
Et vos enfants aussi.
Et vos enfants. Et vous-même d'ailleurs, si vous êtes au milieu du guet. Allez, c'est juste après les infos.